nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Avec, bien entendu, la participation de Robert Lamoureux et le public de La Lambra. C'était traditionnel. Cette formule ne pouvait être absente d'une joie de vivre dans les années 50. La joie de vivre de Bernard Blier ne dérogeait pas à la tradition. Et Bernard Blier était très entouré. Le rejoignaient sur scène celles et ceux qu'il avait invités pour ce numéro de music-hall et de témoignages. Des anciens, tels Ouvrard, Georgius, mais aussi, nous étions en 1953, un débutant. Bernard Blier prévenait son public. Il venait d'entendre un jeune chanteur, compositeur, et avouait que depuis l'arrivée en 1936 à Paris de Charles Trenet, il n'avait pas ressenti une émotion devant un tel talent, une telle débauche de poésie, de sincérité et de charme. Quel était donc ce jeune chanteur ? Réponse en suivant La joie de vivre de Bernard Blier, diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 11 janvier 1953.
Cinéma Musical à Paris, Henri Spade et Robert Chazal présentent en direct aux spectateurs et en différé aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française La joie de vivre. Émission publique radio-télévisée animée par Jacqueline Joubert et Henri Spade. Avec aujourd'hui Bernard Blier et Maria Novaro, Georges Brassens, André Équian, Georgius, Raymond Girard, Marcel Ichac, Jimmy Essayodler, Jean-Paul Lechanois, Jim Marcy, Ouvrard, François Perrier, les petits chanteurs à la Croix de Bois, André Ravry, speaker Charles Bassompierre. Avec bien entendu Robert Lamoureux, l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Riss et le public de...
La Lambra.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle.
Bonjour monsieur.
Aujourd'hui, la joie de vivre de Bernard Blier.
Bernard Blier, comédien français, né à Buenos Aires le 11 janvier 1916.
En 1916, Bernard Blier, en Argentine, on jouait ce tango-là. Hidalgo, asseyez-vous. Voilà. Non, mais je vous trouve très, très gaucho comme ça.
Non, 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 non.
Ça n'a pas duré longtemps, l'Argentine.
Non, 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 j'en suis parti à un mois.
Oh, un mois seulement ?
Oui, oui, c'est tout ce que je peux... Je ne peux pas parler plus longtemps de l'Amérique du Sud. Je vous dis, j'avais un mois quand j'en suis parti.
Mais pourquoi étiez-vous là-bas ?
Ben, parce que j'y étais né.
Non, mais bien sûr, mais pourquoi vos parents étaient-ils là-bas ?
Pour que j'y naisse.
Non, mais vous n'êtes pas argentin, vous êtes normand.
Non, 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 je suis pas normand, je suis de père savoyard et de mère bourguignonne. Et je suis né par accident en Amérique du Sud parce que mon père faisait partie de missions scientifiques qui ont écumé toute l'Amérique du Sud, si j'ose m'exprimer ainsi, pendant de nombreuses années. En arrivant à Paris, mes parents, qui n'avaient pas d'appartement, ont habité pendant quelques temps rue de Seine, ce qui m'a permis de faire mes premières armes à l'école de la rue Saint-Benoît. J'étais déjà un petit rat de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, après ça, mes parents ont trouvé un appartement que ma mère habite toujours et qui est un appartement très étrange. Il est au coin de la rue Lécluse et de la rue des Dames, et c'est un appartement dans lequel a habité Paul Verlaine. Et en plus de ça, cet appartement appartenait à la veuve d'un zouave pontifical qui s'appelait Madame Pélican. Non, tout ça est exact, et dans la famille, quand les enfants de son passage ont dit « La veuve Pélican va venir te manger
bon, ». Une tradition.
Oui, je ne sais pas ce qu'est devenue cette brave dame, elle existe certainement toujours, je lui rends un hommage. Grâce à elle, les enfants n'ont jamais été sages dans la famille.
Bon. Mais justement, vous deviez aller au lycée après.
Ah oui, j'ai été au lycée. J'ai été au lycée très vite, au lycée Condorcet, où j'ai fait des études qu'on peut qualifier d'inattendues.
Oui.
Ah. Elles étaient brillantes sans l'être, brillantes à certains côtés. J'avais un goût particulier des loisirs.
Lesquels loisirs?
Quelle sorte d'activité?
Eh bien, j'aimais... J'espère que mes enfants n'écoutent pas ce que je raconte, parce que... Ils ont
on
déjà tendance
fixer,
à... Ils ont tendance à rigoler quand je leur dis que j'étais un très bon élève.
Ils ont compris.
Mais...
C'était pas vrai, bien entendu.
Non. Non, mais enfin, j'ai fait des études tout de même relativement brillantes. En ping-pong, en tennis et en alpinisme.
Ah, en alpinisme. Oh, autrement dit, la montagne a toujours été votre grande joie de vivre, extra-professionnelle.
Ah oui. Extra-professionnelle.
Quelle que soit la profession.
Quelle que soit la profession, ça a toujours été très agréable pour moi de faire de la montagne. Je ne pensais même qu'à ça. Toute l'année, je me disais, je vais aller à tel endroit, je vais faire tel sommet. Et je provoquais même des vacances quand je trouvais qu'il n'y en avait pas assez dans le calendrier scolaire.
Nous pourrions faire appel à un spécialiste qui vous parlerait très bien de la montagne. C'est Marcel Ichac, qui a appartenu à l'équipe de la Napurna, et que voici. Et alors, ce qui est d'autant plus sympathique en ce qui concerne cette rencontre, c'est que Bernard Blier est artiste de cinéma, que Marcel Ichac cinématographie les expéditions alpestres.
Oui.
Alors je pense que vous êtes déjà en terrain de connaissance.
Oui, mais nous ne nous connaissions pas avant ce jour.
Non.
Et je dois vous présenter Marcel Ichac, que je considère avec Samy Vell comme l'homme le plus qualifié pour parler de la montagne en France. Et il a participé aux expéditions françaises de l'Himalaya en 1936, c'est très exact.
Exact.
Oui, je connais très bien la question.
Vous savez ça mieux que moi.
Et il est allé à l'Annapurna il y a 2 ans, et je dois dire que...
Au pied de l'Annapurna.
Oui, enfin...
Le sommet, c'était Hervé Lachenal.
Oui, bien sûr, tout le monde le sait, mais le pied de l'Annapurna, pour Ichac, c'est tout de même la bagatelle de 6000 mètres environ.
Un peu plus.
Oui, un peu plus.
Entre 6 et 7.
C'est déjà très haut. Et je dois dire que si la montagne a été, quand j'étais jeune, une grande joie de vivre pour moi, maintenant que j'en fais beaucoup moins parce que je n'ai pas le temps et parce que je suis trop gros, je retrouve dans le récit des expéditions françaises ou étrangères et dans les films que Marcel Ichac a pu faire de l'Himalaya ou des expéditions polaires, je retrouve une joie de vivre en admirant complètement les hommes merveilleux qui ont sacrifié une partie de leur vie, et bien souvent leur vie, à ces découvertes magnifiques. Alors je voudrais que Marcel Ichac nous parle de...
Il faudrait que Marcel Ichac nous dévoile les projets des équipes françaises.
Ah ben ça, en principe, c'est secret, mais alors
oui.
Tout le monde en parle.
Alors par exemple,
la question, en principe, on a droit, parce qu'on prend un petit peu ses tickets dans l'Himalaya, malheureusement, on fait un peu la queue. Et les Suisses, après leur échec de cette année, laissent la place aux Anglais en 1953. Et en 1954, si tout va bien, la France pourra courir sa chance.
Sur l'Everest?
À l'Everest.
Ah.
Mais ne le dites pas.
Non, non.
Maintenant, alors, je voudrais dire quelque chose au public, parce que ça, Bernard Blier ne l'a pas dit, parce qu'il est très modeste. C'est qu'il se trouve que ce grand artiste représente pour le public, dans la plupart de ses films, un personnage, permettez-moi le mot, je ne veux pas vous froisser, extrêmement pacifique. C'est vraiment le brave homme qu'on aime bien.
Mais c'est quand on oui. connaît mal.
Alors, il se trouve... Il se trouve que vous avez choisi, ou vous n'avez pas choisi, mais vous êtes attiré peut-être par le sport le plus dangereux et en même temps celui qui demande le plus d'énergie. Et je crois que ce côté caché de votre personnage, il n'était pas inutile de le souligner.
Bon, oui, enfin, je veux bien.
Bon. Et j'espère vous retrouver, soit
à l'Himalaya,
ou ailleurs, en montagne de toute façon.
Non, je suis persuadé que nous nous retrouverons certainement...
Alors en balade, en course,
ensemble.
Sur un sommet quelconque, ou peut-être même qui serait beaucoup mieux... dans un film en montagne.
Que vous feriez. Et je vous remercie.
Merci Marcel Ichac de cette charmante visite.
Pour vous rappeler un peu vos promenades alpestres, nous vous proposons maintenant Jimmy et ses Yolder.
Je reprends mon dur labeur. Sur mes doigts jaillit l'écrémeux parfumé du suc des
que vous avez peut-être fait votre apprentissage de chanteur derrière votre maison, peut-être.
Oui, comme j'habitais rue Lécluse, comme tous les Parisiens le savent, la rue Lécluse est placée juste derrière l'Européen, qui est un des temples du music hall. Et j'y passais la partie de mes nuits que je ne passais pas à faire mes devoirs. C'est-à-dire que j'y allais pratiquement tous les jours.
Et qui avez-vous entendu à
l'Européen? Oh, j'ai entendu tout le monde, tous les grands chanteurs, tous, ceux qui sont hélas disparus, ceux qui sont encore là. Et j'ai un souvenir tout particulier pour Ouvrard, qui est un homme que j'adore et que je suis très content d'accueillir ici.
Eh bien, voici Ouvrard à l'Européen d'autrefois.
Bien, voici une petite chanson typique, mais tique. Sur Terre, il y a des gens, c'est drôle, qui possèdent un tic nerveux. Il y en a qui haussent les épaules ou qui clignent des yeux. Moi, je suis un phénomène, car au lieu d'un tic seulement, j'ai chaque jour de la semaine un tic différent. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était pas. Attends, je l'ai fait tous. En même temps. Comme il y avait une place vacante, un filon exceptionnel, pour l'avoir, je me présente chez mon colonel. Il me dit d'une voix polie, mon garçon, vous me plaisez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, j'y ai répliqué, ben, le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Mercredi et jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était pas tant, je l'ai fait tout en même temps. Je viens de faire un beau mariage avec une jeune fille très bien, mais depuis que je suis en ménage sur elle, je déteins. Et le soir, plein de tendresse, en dégustant le café, tous les deux avec ivresse, savez-vous ce qu'on fait? Mais le lundi, on fait comme ceci. Le mardi, on répète sans répit. Mercredi et jeudi, ça c'est régulier. Notre gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, on fait sans le vouloir. Le samedi, on fait matin et soir. Et le dimanche, c'était pas tant, on les fait tous en même temps.
Et qui y avait-il encore à l'Européen?
Ah oui. Ben, il y avait à l'Européen, et il y a toujours dans toute la chanson française, un des plus grands noms de la chanson française, qui était très jeune à l'époque où moi j'étais encore un enfant, mais qui était tout de même déjà une immense vedette, et que je considère comme un des plus grands chanteurs de variété de music hall de tous les temps, j'ai nommé Georgius, que je suis très heureux de vous amener.
Aimez-vous les Java? Alors si vous les aimez, Java, Java Bardé, parce que j'en connais une qu'on va pouvoir chanter en chœur, c'est la plus belle, c'est la plus bête des Java.
Allez,
mais il faut ce qu'il faut maintenant.
Ça n'a l'air de rien, mais ça crée l'ambiance. Compris la combine, pas un mot à la reine-mère. Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Jules aux gueules d'acier. Et pour vous raconter ça, il fallait une Java. J'en ai fait une pâte et écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Mes couplets ne riment pas bien, mais je m'en fous. Le grand Juno et Nana sur un air de Java. Scolure au palmusette sur un air de Javette. Elle lui dit j'ai le béguin sur un air de Javin. Il répondit tant mieux sur un air déjà vieux les cœurs. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette, cette fois je m'énerve. Ah, 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 c'est la plus pâte des Java. Ils partirent tous les deux comme les amoureux à l'hôtel meublé du Poulet Herveux. Le lendemain, le grand Julo lui dit jeter dans la peau et il lui botta le bas du dos. Elle lui dit j'ai compris, tu veux de l'argent chéri, j'en aurai à la sueur du nombril. Alors elle s'en alla sur un air de Java, à boulevard de la Chapelle, sur un air de Javel. Elle se vendit pour de l'or sur un air de Javor, à 3 francs la séance sur un air de Jouvence. À nous, ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette, que cette fois je m'énerve. Ah, ah, ah. Ce temps, ayant besoin d'argent, mijotait un vol extravagant. Il chipa lui Julo une rame de métro qu'il dissimula sous son paletot. Le coup était bien fait, mais jusqu'en y sortait, une roue péta sous son gilet. Alors on l'arrêta sur un air de Java, mais rouge de colère sur un air de Javert. Dans le ventre du flic, sur un air de Javic, il planta son eustache sur un air de jeune vache. À nous, ah, 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 ah. Écoutez ça, disait, j'en ai marre de la poche. Ah, 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 ah. C'est la plus bonne des Java. Couplet final et dramatique. On va faire un petit effet musical, hein, quelque chose. Très bien, merci. Nana, ne sachant rien. Très joli ce que vous venez de faire, vous me direz ce que je vous dois pour ça. Continuez son turbin. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Emportez le piano, finirez chez vous. 6 mois se sont passés un matin. Elle rentre à la maison, mais elle a des frissons. Elle s'arrête devant la prison. L'échafaud se dresse là, le bourreau qui ne s'en fait pas fait le couperet à la pâte Omega. Julon vient à ta petite main sur un air de Java. C'est lui qu'on dit Catine sur un air de Javine. Ça t'étroule dans le panier sur un air de Javier. Et Nana s'évanouille sur un air de Javou de Léguer. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus pâte des Java. Et voilà.
Vous pensiez au théâtre à ce moment-là, Bernard
Blier? Ah oui, bien sûr, parce que le music hall conduit automatiquement au théâtre. Et j'allais au théâtre très régulièrement, toujours pendant mes loisirs, très organisé. J'allais au théâtre tous les jeudis en matinée, grâce à la générosité de mes parents. J'allais assister aux matinées classiques du théâtre français, qui est, comme chacun sait, le plus grand théâtre du monde. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à la comédie française, je le dis parce que je le pense. Et il y avait au théâtre français, à cette époque, un des plus grands comédiens de tous les temps. Et je dois dire que c'est lui qui m'a donné envie de faire du théâtre. Je le trouvais tellement bien, il l'est toujours, il est même certainement encore mieux maintenant qu'il n'était à l'époque, si c'était encore possible. J'ai vu pour la première fois Pierre Fresnay jouer la tragédie. Et ceux qui ont vu Pierre Fresnay jouer la tragédie peuvent se rendre compte à quel point c'était un événement important pour un jeune homme. pour même un enfant que j'étais. Et je ne dois dire que si je fais du théâtre aujourd'hui, c'est lui qui m'en a donné le goût, je l'en remercie.
Eh bien, justement, Bernard Blier, il y a là un texte que Freinet a écrit pour définir ce qu'est le don dramatique, et je pense que cela vous ferait plaisir de l'entendre lire par Jacqueline.
Le jeu dramatique ne s'explique pas. Le don qui permet à certains êtres d'y exceller ne peut davantage se définir. Sans doute peut-on, sans risque d'erreur, avancer que la sensibilité en est l'élément essentiel, que la sincérité est nécessaire aux comédiens, et non moins dans les rôles comiques que dans les rôles dramatiques. De là à tirer des conclusions formelles, à établir des règles, à dégager une vérité, il est autant de vérité que de comédien, sinon davantage. Autant de mauvais chemins pour rejoindre le personnage que de bons, sinon plus encore. Est-ce même nous qui allons à lui ? Pour ma part, j'inclinerais plutôt à penser que c'est lui qui vient à nous, ou n'y vient pas. Le problème de la création se pose à l'acteur comme à tous les artistes, avec cette différence toutefois que le peintre, le sculpteur ou le musicien a pour travailler ses couleurs, sa glaise ou son instrument. Le comédien n'a pour instrument que lui-même. Qu'il lui soit pardonné, au moins quand il parvient à le résoudre, ce fameux problème de ne pouvoir dire comment le miracle s'est accompli.
Et c'est pourquoi, Bernard Blier, nous ne vous demanderons pas comment vous êtes devenu comédien, parce que le miracle ne s'explique pas. Mais quand même, vous alliez peut-être déjà au cinéma aussi à cette époque-là.
J'allais beaucoup au cinéma, et j'allais, vous pensez, Place Clichy, il y a des cinémas, quand ça n'est pas un bistrot, c'est un cinéma. C'est un quartier merveilleux pour élever les enfants. Et je dois dire que je me souviens avec émotion du premier film parlant qui s'appelait Le chanteur de jazz, et j'ai gardé un souvenir très ému de Al Johnson.
Al Johnson était, vous le savez, un chanteur blanc qui se maquillait en noir, et Raymond Girard, lui aussi, s'est maquillé en noir pour chanter Sunny Boy, voici Raymond Girard.
Tu ne sais pas, mon chéri, lorsque tu trembles et tu ris, quelle place immense tient ton existence dans mon pauvre cœur, mon petit. Triste ou mon sade, là ou bien malade, quand je te vois, ça n'est pas. C'est clair, la vie m'est plus chère. Je suis guéri, je souris. Aujourd'hui même, sans les regretter, tout ce que j'aime peuvent bien me quitter. Tout m'indiffère, mon bonheur. C'est avec toi, Sonny Boy. Plus cher que la gloire et que l'or, plus précieux que tous les trésors, ton petit cœur tendre ne peut pas comprendre pourquoi mon amour est si fort. Si je m'attarde, quand je te regarde, écoute-moi, Sonny Boy. Si je tressaille quand mon cœur défaille, c'est que parfois je revois les yeux de celle que j'adorais tant. Et toi, c'est elle, je revois ses yeux en te voyant. Si Dieu près d'elle un jour te rappelle, emmène-moi.
Ah ben, les films français, je les adorais autant que les autres, si ce n'est plus déjà. Et j'ai gardé un souvenir très ému d'un des premiers films parlants de René Clair, Sous les toits de Paris.
Et dans Sous les toits de Paris, bien entendu, il y avait une chanson
bien sûr.
Que toute la France fredonne encore, n'est-ce pas? Et cette chanson, c'est un tout jeune chanteur qui l'a apprise pour vous, Bernard Blier. C'est Jim Marcy qui chante Sous les toits de Paris.
Tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux et bien unis. Nous sommes seuls ici-bas, on ne s'en aperçoit pas. On se rapproche un peu plus et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien. Près de ta maman, tu n'as pas de tourments. C'est ainsi, cœur à cœur, on cueille comme une fleur, sous les toits de Paris, le bonheur. Quand elle eut 20 ans, sa vieille maman lui dit un jour tendrement, dans notre logement, j'ai peiné souvent, pour t'élever fallait de l'argent, mais t'as compris un peu plus chaque jour ce qu'était le bonheur, mon amour. Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux et bien unis. Nous sommes seuls ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien, près de ta maman, tu n'as pas de tourments. C'est ainsi, cœur à cœur, on cueille comme une fleur, sous les toits de Paris, le bonheur. Sous les toits de Paris, le bonheur.
J'étais très lié à l'époque avec Roger Audifred, qui était le fils d'un impresario très connu, hélas trop tôt disparu. Et Roger Audifred avait un avantage sur les autres camarades de classe, c'est qu'il avait ses entrées à l'Empire, au Casino de Paris, à l'Alcazar. Et quand je dis ses entrées, ce n'était pas seulement dans la salle, c'était dans les coulisses.
Ah oui.
Et pourquoi alliez-vous toujours au Music Hall?
Ah, parce que j'ai toujours eu une tendresse toute particulière pour certaines activités du Music Hall.
En coulisses?
Oui, enfin, je crois
Jacqueline,
que...
Jacqueline, enfin, je crois que... Insensée.
Je me renseigne.
Nous étions très bien reçus, très gentiment, par des quantités de jeunes femmes charmantes à l'époque, et nous passions donc nos journées dans les coulisses du Casino, de l'Empire et de l'Alcazar.
Belle mentalité. Bon, oui. Belle jeunesse.
Ben, c'est une jeunesse normale, mon
oui.
cher.
Je vous souhaite enfin, passons.
Je vous souhaite pas pire, allez.
Bon, ben, c'est passé aussi, mon pauvre Bernard.
Oui, il y a un moment.
Mais on ne vous demande rien.
Ah, il va recommencer. Ah, il va recommencer comme l'autre, là. Il va recommencer comme Perrier. C'est formidable. Enfin, les mêmes gags.
Bon,
mais
alors,
qu'est-ce
oui,
que vous voyiez à cette époque-là, dans ces musicals?
Eh bien, à l'Alcazar, il y avait une revue merveilleuse qui s'appelait La Revue Espagnole, dans laquelle il y avait des chanteurs espagnols, il y avait des chanteuses espagnoles, il y avait de grandes vedettes espagnoles, et j'ai gardé un souvenir très ému de cette époque. Vous remarquez que mes souvenirs sont tous très émus,
oui.
Évidemment. On me demande de venir dire pourquoi j'ai eu de la joie à vivre, alors fatalement, je suis toujours ému chaque fois que j'évoque un souvenir, mais je ne le dirai plus.
Bon, en tout cas, Bernard, pour évoquer justement cette joie de vivre que vous êtes apportée par le Music Hall espagnol, nous avons choisi une chanson qui en est l'expression classique et qui va vous être chantée par Maria Novaro.
De primavera Et Madrid en parece las violetas verán que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévele usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, lléveme usted este ramito para lucirlo en el ojo. Soy poetisa de flor sufisa, sans aucun artifice, elle ravisse et rejonisse. Oh, señor y señorita, dedo de la carmesita, accepte ce violeta. C'est le bonheur qu'on achète, les bons dieux vous les rendront. Pour faire éclore un sourire, pour parler sans rien se dire, rien ne vaut ma vie.
Il y a deux mois, François Perrier vous a parlé de la révolution qu'a été en France l'arrivée de Charles Trenet. Je prends position nettement. Je viens d'entendre un jeune compositeur et un jeune chanteur que vous connaissez tous déjà certainement. Et j'avoue que depuis l'arrivée en 1936 à Paris de Charles Trenet, je n'ai pas ressenti une émotion devant un tel talent, une telle débauche de poésie, autant de sincérité, de charme et de qualité. Je voudrais que vous entendiez avec moi, avec autant de joie, j'en suis sûr. Je voudrais que vous entendiez Georges Brassens, qui est à mon avis un événement dans la chanson française.
Georges Brassens!
Bon, le parapluie. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami, courant alors. À sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'où ira deux le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, parti. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change. Parti.
Mais petit à petit, comme ça, vous êtes arrivé au conservatoire tout de même. Et votre père était d'accord pour ça?
Ah oui, il n'a pas été d'accord tout de suite. Il faut dire que la première fois que je lui avais dit que je voulais faire du théâtre, j'avais 11 ans. Alors il m'a écouté très sérieusement, il m'a dit tu veux faire du théâtre. Bon, eh ben tu seras privé de dessert jusqu'à temps que tu aies changé d'avis. C'était une boutade car il a beaucoup aidé mes débuts.
Et au conservatoire, vous étiez, je crois, l'élève de Jouvet.
Oui, j'ai été l'élève de Jouvet pendant 4 ans.
Évidemment, je pense que... comme tous ceux qui ont connu, approché et aimé Jouvet, il vous est difficile d'en parler vous-même.
Oui.
Mais je pense que vous pourriez nous lire un texte qui exprime admirablement tout ce que votre génération de comédiens pense à ce sujet.
Je voudrais vous lire un texte qui a été écrit dans la revue d'Histoire du théâtre, un texte qui a été écrit par un de nos plus éminents camarades qui était avec nous au conservatoire et qui s'appelle Jean Meyer, que vous connaissez tous, et qui a écrit, à mon avis, quelques pages très pertinentes sur ce qu'a été l'enseignement de Louis Jouvet au conservatoire. Il arrivait méthodiquement à 9h55 pour la classe de 10h, répondait à notre salut d'un coup d'œil qui nous transperçait, et en 4 ou 5 bonds se trouvait au premier étage. Ce court contact nous permettait d'échanger des pronostics sur l'atmosphère future de la classe. Il y avait néanmoins des surprises. Comment penser qu'un homme aussi érudit, aussi travailleur, l'un des premiers comédiens de France, n'était pas un merveilleux professeur ? Les savants artifices qu'il déployait sur son théâtre, jamais il n'en faisait étalage à la classe. Il ne se racontait pas, il n'était question que du cas de l'élève, jamais du sien. Il n'admettait pas la discussion. Il la jugeait fertile pendant les repas, mais nocive à la classe. Il avait horreur de l'inutile, de la phrase pour la phrase. Il était à la fois notre maître, notre médecin et notre confesseur. Il répétait volontiers, « Tu es l'instrument et l'instrumentiste ». Faire sa classe le passionnait. C'était pour lui une nouvelle forme de travail, une expérience vivante, un moyen de nous sonder à notre insu. À propos de l'école des femmes ou de Don Juan, il nous disait fréquemment « J'apprends plus que vous en vous faisant travailler ». Il prétendait aussi que le talent n'est rien, que le travail est tout. Ce qui est certain, c'est que nous travaillions, grâce à lui, beaucoup. Et comme l'a dit un de nos camarades de classe, nous devons remercier Jouvet de ce qu'il nous a appris, mais aussi de ce qu'il nous a empêchés d'apprendre.
Déjà dit l'autre fois, c'est à ce moment-là que vous avez rencontré le camarade Perrier.
Qui rend à Bernard Blier la visite que celui-ci lui a rendue il y a 2 mois maintenant.
Oui.
Au début de l'émission, il était caché derrière ce tissu vert. Et pendant que nous parlions dans ce petit trac où on est toujours quand on démarre une émission, il était là en train de faire des réflexions saugrenues derrière notre tête.
Je ne faisais pas de réflexions saugrenues. Tous les auditeurs auraient pu m'entendre. Je disais articuler. C'était simplement... Je disais simplement ça dans l'intérêt de l'émission et des gens qui sont au fond là-bas.
C'est charmant.
Je m'empresse de dire que cette remarque s'adressait à Spad.
Oui.
Oh,
c'est pas du tout pourquoi vous avez pris ça pour vous.
Moi, j'ai pas pris ça pour moi parce que tu me dis d'articuler depuis 15 ans. Alors.
D'ailleurs, j'ai renoncé.
Oui.
Ben, écoutez, nous allons aussi bien. Le plus simple est-il de voir si, au temps où vous vous donniez des conseils réciproques, n'est-ce pas, vous arriviez à vous faire articuler l'un l'autre.
Je voudrais que François me donna, comme il l'a fait il y a 15 ans, la réplique dans Sganarelle du mariage forcé. Je jouerais Sganarelle, ce qui était déjà mon emploi à l'époque. C'est un emploi très sérieux, ce sont les maris trompés, il en faut.
Au théâtre, tout au moins.
Il en faut partout, mon vieux.
Toutes les femmes vous le diront.
Je suis de retour dans un moment. Que l'on ait bien soin du logis et que tout aille comme il faut.
Ah, si l'on m'apporte de l'argent, que l'on me vienne vite quérir chez le seigneur Géronimo. Si l'on vient m'en demander, qu'on dise que je suis sorti et que je ne dois revenir de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent.
Oh, seigneur Géronimo, je vous trouve à propos et j'allais chez vous vous chercher.
Et pour quel sujet, s'il vous plaît?
Pour vous communiquer une chose que j'ai en tête et vous prier de m'en dire votre avis.
Mais très volontiers, je suis bien aise de cette rencontre et nous pouvons parler ici en toute liberté.
Mettez donc dessus, s'il vous plaît.
Il s'agit d'une chose de conséquence que l'on m'a proposée. Et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis.
Je vous suis obligé de m'avoir choisi pour cela. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est.
Mais auparavant, je vous conjure de ne me point flatter du tout et de me dire librement votre pensée.
Je le ferai puisque vous le voulez.
Je ne sais rien de plus condamnable qu'un ami qui ne vous parle pas franchement.
Mais vous avez raison.
Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères.
C'est vrai.
Promettez-moi donc, seigneur Géronimo, de me parler avec toutes sortes de franchise.
Je vous le promets.
Jurez-en votre foi.
Mais oui, foi d'amis. Dites-moi seulement votre affaire.
C'est que je voudrais savoir de vous si je ferais bien de me marier.
Qui? Vous?
Oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus?
Je vous prie auparavant de me dire une chose.
Et quoi?
Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant?
Dis-moi.
Oui.
Je ne sais, mais je me porte bien.
Ouais. Vous ne savez pas à peu près votre âge?
Non, est-ce qu'on songe à cela?
Dites-moi un peu, s'il vous plaît, combien aviez-vous d'années lorsque nous fîmes connaissance?
Ah, je n'avais que 20 ans alors.
Combien fûmes-nous ensemble à Rome?
8 ans.
Quel temps avez-vous demeuré en Angleterre?
7 ans.
Et en Hollande, où vous fûtes ensuite?
5 ans et demi.
Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici?
Je reviens en 56.
De 56 à 68, il y a 12 ans, ce me semble. 5 ans en Hollande font 17. 7 ans en Angleterre font 24. 8 dans notre séjour à Rome font 32. Et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes, cela fait justement 52 ans. Si bien, seigneur Zenarel, que sur votre propre confession, vous êtes environ à votre 52e ou 53e année.
Qui, moi? Ça ne se peut pas.
Mon Dieu, le calcul est juste. Et là-dessus, je vous dirai franchement et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère votre fête. C'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien mûrement avant que de la faire. Mais les gens de votre âge n'y doivent point penser du tout. Et si l'on dit que la plus grande de toutes les folies est celle de se marier, je ne vois rien de plus mal à propos que de la faire, cette folie, dans la saison où nous devons être plus sages. Enfin, je vous dis nettement ma pensée, je ne vous conseille point de songer au mariage, et je trouverais le plus ridicule du monde si, ayant été libre jusqu'à cette heure, vous alliez vous charger maintenant de la plus pesante des chaînes.
Et moi, je vous dis que je suis résolu de me marier, et que je ne serai pas ridicule en épousant la fille que je recherche.
C'est autre chose, vous ne m'aviez pas dit cela.
C'est une fille qui me plaît, que j'aime de tout mon cœur.
Vous l'aimez de tout votre cœur?
Sans doute, et je l'ai demandé à son père.
Vous l'avez demandé?
Mais c'est un mariage qui se doit conclure ce soir, et j'ai donné parole.
Ah, mariez-vous donc, alors je ne vous dis plus mot. Enfin,
je quitterai le dessein que j'ai fait. Vous semble-t-il, seigneur Géronimo, que je ne sois plus propre à songer à une femme? Voilà. Ne parlons pas de l'âge que je puisse avoir, mais regardons seulement les choses. Y a-t-il homme de 30 ans qui paraisse plus frais et plus vigoureux que vous me voyez? N'ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais? Et voit-on que j'ai besoin de carrosse ou de chaise pour cheminer? Ne fais-je pas vigoureusement mes 4 repas par jour? N'ai-je pas toutes mes dents les meilleures du monde? Et peut-on voir un estomac qui ait plus de force que le mien? Qu'en dites-vous?
Vous avez raison, je m'étais trompé, vous ferez bien de vous marier.
J'y ai répugné autrefois, mais j'ai maintenant de puissantes raisons pour cela. Outre la joie que j'aurai de posséder une belle femme qui me fera 1000 caresses, qui me dorlotera et me viendra frotter lorsque je serai là. Outre cette joie, dis-je, je considère qu'en demeurant comme je suis, je vais périr dans le monde la race des Sganarelles. Et qu'en me mariant, je pourrai me voir revivre en d'autres moi-même. Que j'aurai la joie de voir de petites figures qui seront sorties de moi, qui me ressembleront comme deux gouttes d'eau, qui se joueront continuellement dans la maison, qui m'appelleront leur papa lorsque je reviendrai de la ville, et me diront 1000 folies les plus agréables du monde. Tenez, il me semble que j'y suis déjà et que j'envoie une demi-douzaine autour de moi.
Il n'y a rien de plus agréable que cela, et je vous conseille de vous marier le plus vite que vous pourrez.
Tout de bon, vous me le conseillez?
Ah, assurément, vous ne sauriez mieux faire.
Ah, je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami.
Et quelle est la personne, s'il vous plaît, avec qui vous allez vous marier?
Dorimène.
Dorimène? Cette jeune Dorimène, si galante et si bien parée. Fille du seigneur Alcantor.
Justement.
Et sœur d'un certain Alcidas qui se mêle de porter l'épée.
C'est cela.
Oh, en vertu de ma vie.
Qu'en dites-vous?
Bon parti. Mariez-vous promptement.
N'ai-je point eu raison d'avoir fait ce choix?
Oh, sans doute. Que vous serez bien mariés, dépêchez-vous de l'être.
Je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Je vous remercie et je vous invite ce soir à mes noces.
Je n'y manquerai pas et je veux y aller en masque afin de les mieux honorer.
Serviteur.
La Jeanne d'Arc même. Fille du seigneur Alcantor. Avec le seigneur Sganarelle qui n'a que 53 ans. Oh, le beau mariage. Le beau mariage.
Ce mariage doit être heureux car il donne de la joie à tout le monde et je fais rire tous ceux à qui j'en parle. Me voilà maintenant le plus heureux des hommes.
À cette époque, j'imagine que vos joies n'étaient pas seulement théâtrales.
Certains musiciens de cette génération m'ont donné un goût que j'ai gardé toujours, qui est le goût de la vraie musique de jazz. De la vraie, je dis bien la vraie, qui a commencé à cette époque-là à prendre une ampleur considérable grâce au Hot Club de France et à son action.
Eh bien, nous allons faire venir ici maintenant pour vous, Bernard Blier, un des fondateurs du Hot Club de France qui va jouer pour vous à la fois du saxo et de la clarinette, c'est-à-dire André Ekien. Sorti de l'enfance, Bernard Blier, il y a une joie dont maintenant nous ne parlerons plus. C'est la joie de vivre en famille, car nous avons pour ce faire un spécialiste en la personne de...
J'ai eu 33 ans la semaine dernière. D'accord, c'est pas vieux par rapport à votre âge, monsieur, mais n'empêche que ça fait quand même 33 ans. Et alors, je vais vous dire un petit poème de circonstance que j'ai intitulé à l'époque où j'avais d'ailleurs pas tout à fait 33 ans et que j'ai intitulé « Je vieillis ». Certains jours comme ça, quand j'ai l'air morose, il y a des gens qui me disent « Ben voyons mon petit, à votre âge, bon sang, mais la vie est rose, 28 ans, c'est jeune ». 23, 33 maintenant. 33, c'est jeune. Non, je vieillis. La preuve, quand mon père et moi, tous deux, on se promène, ben le vieux, il s'arrête, il me regarde, il me dit « Sacré nom d'un chien, t'as changé tout de même. » À la tête qu'il fait, je vois bien que j'ai vieilli. Bien sûr, pour ma mère, c'est pas la même chose, elle peut pas y croire que j'ai 33 ans. Elle m'appelle encore son petit poulet rose. Ben, ça me plaisait, ben ça me gêne maintenant. Je vieillis. Avant, mon plaisir, quand j'étais tout seul, c'était de galoper puis de sauter les haies. Maintenant, quand je les saute, ben je me casse la gueule, vous allez pas me dire que je le fais exprès. Non, je vieillis. Avant, quand je lisais, c'était du Racine, Molière, Schopenhauer ou Chateaubriand. Maintenant, ce qui m'amuse, c'est de lire Bécassine. Alors, vous qui êtes vieux, ça vous a pris quand? Je vieillis. Avant, j'adorais courir les demoiselles. J'en avais ensemble des fois deux ou trois. Maintenant, ben ça y est, je suis devenu fidèle. Une seule, ça me suffit. Et même, il y a des fois... Non, je vieillis. Avant, quand je croisais mon propriétaire, je lui tirais la langue, je lui faisais des pieds de nez. Maintenant, quand il passe, je m'incline jusqu'à terre. Maintenant, c'est moi qui paye le loyer. Je vieillis. Avant, quand je passais devant un étalage, je piquais une prune, une pomme, un citron. Maintenant, quand il tombe une poire, je la porte au patron. Alors non. Et puis avant, quand j'étais tout petit, quand pour une seule bêtise, qu'est-ce que je pouvais prendre alors comme fessé? Maintenant, mes bêtises, ben, elles sont transmises. Et plus fort que ça, je me les fais payer. Alors non, il n'y a pas tout.
Parlons tout de même cinématographe, monsieur Blier.
Oui, bien sûr.
Les joies du cinématographe.
Oui. Ben, les joies du cinématographe, j'ai eu la chance d'être très gâté parce que j'ai tout de suite eu le bonheur de tourner avec de très bons metteurs en scène. Je dois remercier Marc Allégret, qui le premier m'a fait débuter. Et puis après, j'ai tourné avec Marcel Carné, j'ai tourné avec Christian Jacques, qui m'a donné de très grandes chances et dont je le remercie. J'aurais voulu qu'il soit là, mais il est à Rome. Carné, on ne sait pas où il est. Allégret est au Mexique. Et enfin, bref, j'ai eu des chances sensationnelles. J'ai tourné aussi avec Clouseau, que j'adore tout particulièrement. Mais, car il y a un mais dans tout ça, je peux dire que j'ai tourné beaucoup avec un metteur en scène et un auteur que j'adore, et qui, lui, est là aujourd'hui, et je suis bien content de l'accueillir. C'est avec Jean-Paul Le Chanois. J'ai tourné 4 films avec Jean-Paul, alors je voudrais qu'il vienne vous parler un petit peu de ce qu'on a fait ensemble.
Voici et des joies que nous avons eues. Jean-Paul Le Chanois, vous avez tourné avec Bernard Blier, messieurs Ludovic, l'école buissonnière, agence patrimoniale et
sans laisser d'adresse.
Voilà. Voilà.
Ça fait beaucoup.
On veut bien situer ces films, dans aucun de ces films, Bernard Blier ne prenait son emploi soi-disant favori au cinématographe, c'est-à-dire celui de, disons, Sganarelle, qu'il a déjà illustré au théâtre tout à l'heure avec Perrier. Je voudrais savoir, Jean-Paul Le Chanois, pourquoi vous avez eu l'idée de lui donner des emplois humains à Blier?
Ben, c'est parce que quand j'ai rencontré Bernard, je me suis dit... D'abord, je l'ai aimé beaucoup, tout de suite, amicalement. Ça a été une rencontre heureuse parce qu'on se rencontrait sur beaucoup de terrains en même temps.
Oui.
La montagne, par exemple, on en a déjà parlé. La gastronomie, ça, on n'en a pas parlé.
Ah oui, oui.
Mais c'était très sérieux.
J'ai oublié la gastronomie dans les joies de vivre, c'est pourtant très important.
On avait un goût particulier pour un certain vin rouge qui s'appelait l'Encrier. Et il y avait un terrain très particulier qui était celui de l'acteur. Ben, l'acteur, on en a dit tout le bien tout à l'heure. Mais moi, je voudrais dire aussi que... J'ai senti en Bernard qu'il y avait autre chose que des personnages qui avaient été traités avec lui jusqu'à présent. C'est-à-dire autre chose qu'un personnage un peu mou, un peu lâche, un peu mari trompé qu'on lui faisait jouer. Et en moi, j'ai vu un homme qui est un brave type. Un homme généreux, restez. Un homme généreux, un homme sensible, un homme humain.
C'est une bonne émission.
En tout cas... Les bons sentiments sont peut-être pas toujours à la mode, mais on a essayé ensemble d'en faire, et ma femme en a fait 4, et on en fera peut-être 5.
Quand vous avez tourné l'école buissonnière, vous l'avez fait chanter, si j'ose dire.
Dans la joie de vivre de Bernard, car il a la joie de vivre tout le temps, il chante tout le temps. Un soir, c'était peut-être après un coup d'encrier, d'ailleurs.
Oui,
il s'est mis à chanter une chanson, enfin, que moi j'ai trouvé très bien et charmante, et je lui ai dit... On va la mettre dans le film. Mais notre film était un peu long. Alors, on ne l'a pas mise dans le film, mais Bernard la sait quand même.
Nous allons terminer cette petite interview cinématographique en jugeant les talents de chanteur de M. Bernard Blier, chanteur de charme découvert par Jean-Paul Le Chanois.
C'était un jeune garçon
Et une jeune fille, c'était un jeune garçon. Et une jeune fille, se sont aimés 3 ans, sans jamais, sans rien dire. Alors y en la jolie. Les voilà morts tous deux, leurs amours sont finis. Les voilà morts tous deux, leurs amours sont finis. Où les enterrons-nous, ces jeunes gens jolis? Alors y en la jolie. Le gars au bois du pré, la fille au cœur de la ville, le gars au bois du pré, la fille au cœur de la ville, sur la tombe de la fille, il poussa une vigne. Alors y en la jolie. La vigne poussa si fort qu'elle a couvert la ville, la vigne poussa si fort qu'elle a couvert la ville. Il faut des charpentiers pour tailler cette vigne. Alors y en la jolie. Du bois qu'on a coupé, on en fit 3 navires. Du bois qu'on a coupé, on en fit 3 navires. L'un était chargé d'or, l'autre de pierreries. Alors y en la jolie. L'un était chargé d'or, l'autre de pierreries. L'un était chargé d'or, l'autre de pierreries. Le troisième de fleurs pour couronner mamie. Alors y en la jolie.
Joie de vivre, oui. Merveilleuse, Bernard Blier.
Eh bien, écoutez, il y a une joie que j'aime beaucoup. J'ai une manie qui n'est pas grave, ça n'est pas très dangereux. J'aime les trains.
Vous jouez au train?
Oui, oh non, je vais même plus loin que ça. J'ai la passion des trains, des vrais et des faux. Enfin, quand je dis les faux, ce sont les trains électriques. Quand j'étais tout petit, je faisais du refoulement. Ça m'a passé très vite. Et je voulais un train électrique, puis j'en avais pas. Et puis un jour, j'ai pu avoir un train électrique, alors c'est devenu... J'attendais un prétexte, c'était d'avoir un enfant. J'ai eu un enfant, c'était un fils.
C'est pratique,
et
hein?
L'enfant avait à peine 6 mois que je me suis dit, je vais lui acheter un train électrique. Et comme maintenant l'enfant a 12 ans, j'ai un très beau train électrique.
Et avec lequel l'enfant ne joue jamais, d'ailleurs.
Si, il joue au train avec ses camarades, il m'invite de temps en temps, et je dois dire que j'ai un très beau train électrique, j'ai un vrai réseau, quoi.
Et vous avez, je crois, un conseiller technique pour
ça. Ah oui, parce que c'est très compliqué, vous comprenez, il y a énormément de choses. Il y a 80 mètres de voie déjà dans une pièce toute petite.
Bon, écoutez, alors, ce conseiller technique, nous allons le faire venir. Oui. C'est M. André Ravry, qui est sous-chef de gare à la gare de Lyon.
C'est un vrai.
C'est un vrai cheminot. Il est le conseiller technique de Bernard Blier, car il s'occupe, je crois, monsieur, dans la vie, à part alors, les vrais trains.
À part les grands trains, je m'occupe également des petits trains.
Oui. Vous êtes chargé du service des maquettes de la SNCF.
Oui, aussi un peu. Oui.
Je dois dire que M. Ravry s'occupe tout particulièrement de tout ce qui est consacré aux œuvres sociales des cheminots et qui, avec un désintéressement particulier, il s'occupe des joies des enfants pour l'arbre de Noël des cheminots. Et je tiens à le féliciter à l'avance avec vous tous.
Alors, Monsieur Ravry, est-ce que Bernard Blier est pour vous un client facile? Est-ce qu'il est ouvert au progrès technique des chemins de fer modèle réduit? Est-ce qu'il a la passion de ses chemins de fer? Est-ce qu'il perfectionne toujours son réseau?
Ah oui, Monsieur Bernard Blier entretient vraiment son réseau.
Voilà.
Et ça, je suis obligé de le reconnaître, c'est la vérité.
Ça marche bien.
Ça marche, ça fonctionne très bien.
Alors combien il a 80 mètres de voie. Combien a-t-il de locomotives en service?
Oh, il y en a bien au moins à l'heure actuelle, il y en a bien une quinzaine.
Oh non, il y en a 22.
Et combien de wagons ça représente, le parc?
150 environ.
Ah oui, à peu près.
Environ 150.
Autrement dit, 22 locomotives et 150 wagons, ça représente...
On n'a pas vu ça depuis Göring.
Non, mais... Vous n'en êtes pas encore à l'embonpoint, vous n'avez pas encore le réseau. Mais est-ce que 22 locomotives et 150 wagons, ça représente une gare réelle de quelle importance? Est-ce que c'est déjà un gros dépôt, 22 locomotives?
À l'échelle.
22 locomotives à l'échelle, ça représente un dépôt comment sur le sud-est équivalent.
Oui, la gare de Valence. J'ai la gare de Valence chez moi.
Eh bien, monsieur Ravry, je pense que quand Bernard Blier aura pu trouver le moyen de faire passer son train sur le balcon,
vous pourrez
transformer son dépôt de Valence en dépôt de Lyon.
Oui.
Dépôt PLM.
Il est prêt à tout, lui.
Et je vous remercie d'être venu nous dire comment monsieur Bernard Blier joue au train comme un grand. Vous l'avez dit. Merci, monsieur Ravry. Enfin, dernière joie de vivre, Bernard, qui, je crois, est plutôt une joie de survivre, car elle remonte à la guerre. Je crois que pendant la guerre, vous avez entendu un disque passer souvent à la radio.
Oui, j'ai été comme beaucoup de Français, j'ai été prisonnier. J'étais à la frontière yougoslave. Et quand on habite Paris, j'aime mieux vous dire que la frontière yougoslave, c'est loin. Et on écoutait avec des camarades, on essayait tous les soirs de prendre avec un petit poste de TSF qui avait été fabriqué avec des boîtes à sardines, enfin, comme dans tous les stalags, ça s'est fait. On réussissait à prendre la radio de Londres, une émission à laquelle nous tenions beaucoup. Et moi particulièrement, parce qu'on ne la comprenait pas, c'était une émission qui s'adressait aux Tchèques. Et cette émission qui s'adressait aux Tchèques avec un indicatif, et qui me bouleversait chaque fois que je l'entendais, parce qu'à l'époque j'avais un petit garçon dont je vous parlais tout à l'heure, et que je ne connaissais pas encore. Et j'entendais dans cet indicatif des voix d'enfants, qui chantaient un vieux Noël tchèque. Et ces voix d'enfants, vous l'avez deviné, vous avez tous reconnu avec moi, nous avons entendu les petits chanteurs à la Croix de Bois, et grâce à eux, j'ai pu enfin reprendre un peu de courage, et c'est grâce à eux peut-être que j'ai réussi à me sauver. Alors, je suis content de les accueillir ici aujourd'hui.
Eh bien, Monseigneur Maillet, bien sûr. Pendant que les petits chanteurs entrent derrière vous, Monseigneur, peut-être pouvez-vous nous dire si vous avez retrouvé cette air.
Oui. Ce que nous avons eu, qui était typiquement tchèque, ou plus exactement slovaque, et que nous avions recueilli en 33 et en 35, dans deux voyages en Tchécoslovaquie, nous avions été admirablement reçus, c'était cette berceuse extraordinaire, qui était le chant préféré du président Masaryk, « Tetche voda tetche, lo cool, lo cool ». Il y a des jolies chansons chez les autres, mais il y en a des jolies chez nous. On va vous en donner ce que l'on appelle inélégamment, mais c'est le terme technique un peu pourri. C'est-à-dire un rassemblement de chansons, un bouquet. Nous dirons, ça fait plus joli, plus sentimental. Un bouquet de ces jolies fleurettes qui ont poussé dans tous les jardins de France. Et le morceau s'appelle justement, ça tombe bien, Jardin de France. Et pour vous livrer un secret, c'est un des morceaux du film qui n'a pas encore paru, mais que Maurice Cloche vient de tourner avec nous, en compagnie de Jean-Pierre Aumont. Et qui s'appelle le film Moineau de Paris. Moineau de Paris, vous avez deviné que c'est les petits chanteurs. Leur directeur ne fait plus Moineau depuis longtemps. Et alors vous allez les voir, ces chansons apparaître l'une après l'autre dans une sorte de ronde très jolie, tantôt esquissée, tantôt développée davantage. Et comme disait tout à l'heure l'un de ceux qui sont passés ici, ça nous rappellera votre jeunesse, vous il y a moins longtemps et moi plus.
Ne sait qu'on reviendra. Il reviendra sans manquer, il reviendra.
C'était la joie de vivre de Bernard Blier.
Cinéma Musical musicale à Paris, Henri Spall et Robert Chazal ont présenté en direct aux spectateurs et en différé aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française La joie de vivre. Émission publique radio-télévisée animée par Jacqueline Joubert et Henri Spall. Avec aujourd'hui Bernard Blier et Maria Novaro, Georges Brassens, André Équian, Georges Yus, Raymond Girard, Marcel Ichac, Jimmy Essayodler, Jean-Paul Lechanois, Jim Marcy, Ouvrard, François Perrier, les petits chanteurs à la croix de bois, André Ravry, speaker Charles Bassompierre. Avec bien entendu Robert Lamoureux, l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Risse et le public de... La
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 11 janvier 1953.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris. Quand ça gueule ou saque, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui qu'a dit.
Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Le monde est bon, tout le monde, il est gentil. Le monde est bon, tout le monde, il est gentil.
Dans le ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ, celui qui a dit. Ça jordanise quand le pauvre fédayen copie par bêtise la prose à Monsieur Jourdain. Quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix et se désaltère avec un demi-biafrais. Dans la fraîcheur de la nuit, je me sens tout attendri en pensant à Jésus-Christ, celui qui...